Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve lundi pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, la littérature. Ce soir, Philippe Chevillier et Daniel Martin se font face à notre sommaire Purity de Jonathan Franzen, publié à l'Olivier, Scène de Pierre Glendinning chez POL. Nous évoquerons aussi plus rapidement La marque et le vide de Paul Murray chez Belfond et L'amour a le goût des fraises de Rosamund Aden chez Sabine Vespizer. Vers 21h20, Émilie Chaudet nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Gérard Pétrus Fierré jusqu'au 28 août au Bal à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chorégraphe et directeur du musée de la danse, Boris Charmatz, qui est toute cette semaine l'invité de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec celui qui était l'invité des Matins de France Culture vendredi dernier à New York, Jonathan Franzen, dont les éditions de l'Olivier viennent de publier le dernier roman en date, Purity, dans une traduction d'Olivier de Paris. Une sortie pas vraiment passée inaperçue, puisque le livre a été recensé et souvent encensé par tous les grands et petits médias, mais sur lesquels nous avons eu envie, nous aussi, de nous pencher. Ce n'est que le cinquième roman de Franzen, écrivain né en 1959. Ses deux premiers ouvrages étaient passés relativement inaperçus, ce qui ne fut pas le cas du troisième, Les Corrections, best-seller mondial, paru en 2001. Neuf années ont passé ensuite, pendant lesquelles Franzen a publié notamment un recueil d'essais, puis ses mémoires, avant de publier un nouveau roman, c'était Freedom, en 2010, auquel succède donc aujourd'hui Purity. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Oui, il y a un lien entre les Black Eyed Peas et Jonathan Franzen. C'est pour être le jeu de La Dispute. Si vous le savez, écrivez-nous. Vous gagnerez toute notre estime. Purity, puisqu'on en revient à ce roman, c'est le prénom de l'héroïne du roman. Alors, on l'appelle pas Purity, on l'appelle Pip. C'est une étudiante qui vit dans un squat à Oakland, en Californie, qui est bien embêtée parce qu'elle doit rembourser l'emprunt qu'elle a contracté pour faire ses études. Hein. C'est comme ça, souvent, que ça se passe aux États-Unis. 140 000 $, en l'occurrence. Et elle se demande bien qui pourrait l'aider, parce que ça risque pas d'être sa mère, qui est quand même un sacré numéro, nous allons en parler. C'est dommage que Corinne Rondeau, grande hypochondriaque, ne soit pas là, parce qu'elle aurait pu nous parler de ce portrait de femme assez incroyable qu'est la mère de Pip. Cette mère, elle a élevé seule cet enfant, sans avoir jamais voulu lui révéler l'identité de son père. Donc, Pip se dit peut-être que mon père, s'il le retrouve, peut-être aura-t-il de l'argent pour m'aider. Je m'arrête là dans le résumé.
Je m'arrête là, Daniel. Bon, oui. Mais alors, c'est Philippe Chevillier qui enchaîne pour peine, puisque Daniel Martin me bride dans mon élan.
Eh bien, nous sommes face à un nouveau gros roman de Jonathan Franzen. On peut même utiliser cette fois-ci le terme de doorstopper. De doorstopper, c'est-à-dire qu'un livre qui peut...
Un cale-porte.
Un cale-porte.
Ah non, j'avais jamais entendu moi.
Avant, on utilisait les gros livres pour caler un meuble. Maintenant, c'est pour bloquer les portes.
Ah non, mais c'est plus possible, là.
Alors,
ne dites plus jamais page-turner ni doorstopper ici.
Bon, je ne prononcerai plus le
nom. Cale-porte, si vous voulez.
Alors donc, c'est un gros livre, 745 pages, écrit serré.
Un pavé, on disait dans le temps.
Un pavé. Alors, est-ce que c'est un grand livre ? Pour moi, oui. D'abord, ce qui peut-être en décalage par rapport au précédent roman Freedom, j'ai trouvé que c'était plus fluide, plus lisible. On a l'impression que Franzen, il dit lui-même qu'il veut un petit peu aller vers le lecteur. Moi, j'ai trouvé que ça se lisait plus facilement que Freedom. Je pense qu'il y a un côté assez addictif dans la lecture, déjà, c'est la première chose. Alors évidemment, pourquoi on est pris par ce livre et pourquoi c'est un grand livre ? Bon, d'abord, il y a une espèce de feu d'artifice de fiction, c'est-à-dire qu'il utilise un peu toutes les ficelles, on est à la fois dans le suspense, puisqu'au départ, on a cette pipe qui avec cette mère invraisemblable, mais on ne sait pas qui est son père, et son père, elle veut pas le dire, donc il y a un suspense. Ensuite, il y a des flashbacks, on voyage dans le temps et dans l'espace, on va à Berlin, on se demande pourquoi on va à Berlin, on va en Bolivie, on va dans plein d'endroits, une espèce de puzzle qui va se reconstituer. Ensuite, on a des personnages qui sont très attachants. Alors, on a évoqué volontiers Dickens, Franzen cite lui-même Dickens, il cite les grandes espérances dans le livre.
À cause du personnage de Pip.
Et le personnage de Pip, voilà. Qui est le
prénom vient.
C'est vrai qu'on a des personnages très attachants et qui sont, et c'est là que c'est intéressant, et ils sont en fait pas toujours là où on les attend. Et à chaque fois qu'on pense qu'ils vont réagir d'une certaine façon, c'est souvent en décalage. C'est pour ça que ça crée de nouveaux archétypes qui sont pas tout à fait ceux d'un roman américain traditionnel. Et puis, ce qui m'a aussi frappé, moi, c'est cette écriture qui est vraie. Alors lui, il défend aussi il tient aussi ce discours de Jonathan Franzen. D'ailleurs, maintenant, quand on écrit un roman, on n'a plus besoin de décrire. Alors, effectivement, on n'a plus besoin d'écrire une maison américaine. On n'a plus besoin de décrire des lieux aussi longuement parce que on les a dans la tête, on a les images. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses sur l'introspection, l'action, même s'il y a des descriptions par moment, on y reviendra peut-être. Et donc, c'est un roman d'aujourd'hui dans l'expression, et c'est un roman d'aujourd'hui parce qu'il parle d'aujourd'hui, il parle de choses qui, évidemment, nous concernent beaucoup, à la fois le problème des lanceurs d'alerte, du hacking, rien qu'au départ, le personnage de Pip qui vit dans un squat parmi des gens qui ont été plus ou moins liés à Occupy et des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans le monde moderne avec un questionnement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'au bout de cette saga, ce puzzle qui est constitué de personnages qui nous parlent, qu'on suit, on a un propos intéressant sur l'avenir technologique du monde et sur le fait qu'on est peut-être en train de vivre une dictature technologique de la part des grands acteurs d'Internet, et que le parallèle que nous fait Franzen avec donc l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur et la dictature du net, si je puis dire, en tout cas des grands acteurs, Amazon, Facebook, etc.
GAFA,
le fameux GAFA, c'est un discours intéressant, et en plus pour un journaliste, c'est bien parce qu'il met en avant le journalisme d'investigation en disant que
Il met en opposition, on va dire, les lanceurs d'alerte hyper connectés, et le bon vieux journaliste à l'ancienne, c'est Tom, comment s'appelle-t-il le personnage?
Tom, effectivement, avec sa maîtresse Léla, qui sont les deux, ils ont un tout en ligne, et ils font de l'investigation. Et il semble, et Franzen proche plutôt vers l'humain et vers ce qu'apporte le journaliste d'investigation.
Bon, donc, je vous arrête là dans votre élan.
Vous avez raison.
Avant de revenir vers vous, Philippe Chevillier. Mais Daniel Martin vous regarde avec un peu de...
C'est bien de l'arrêter dans cet élan, parce que moi, la première question que je me pose quand même avec Franzen, c'est qui a décrété que c'était un aussi grand romancier? Moi, ce que j'ai lu, c'est un pavé qui, 400 pages aurait suffi pour dire ce qu'il a à dire. Alors, vous parliez de pavé, effectivement, moi, je parle plutôt de pavasse. Il y a des passages qui sont d'une longueur sans nom. Et alors, ce personnage est quand même d'une prétention folle. Et là, il a eu une idée un jour.
Lequel personnage? Franzen ou Pip?
Je parle de
d'accord. Parce que je voyais pas la prétention
alors,
de Pip.
Je vais essayer d'être clair dans mon vocabulaire. Cet auteur a une prétention folle. Il a décrété un beau jour que, effectivement, la grande forme romanesque du XIXe siècle était formidable. Moi, je me souviens de l'avoir interviewé au moment des corrections. Effectivement, on a parlé de ça. C'était intéressant. C'était bien. Ça reste une théorie. Donc, cette grande forme, il veut absolument l'appliquer à des thématiques contemporaines. Ce qui est très intéressant. Je veux dire, tout le monde demande ça. Des gros livres qu'on lit avec plaisir, dans lesquels on apprend des choses, puisque le roman populaire 19e, c'est à la fois politique, c'est informatif. Chez Balzac, il y a du documentaire, de la fiction, etc.
Mais on a Joyce Carol Oates pour ça, non?
Bien sûr, voilà. Bon, alors on a effectivement d'immenses auteurs contemporains qui font ça. Je ne sais pas pourquoi on a décrété que Franzen était un immense. Moi, j'étais très très surpris de voir qu'on traversait l'Atlantique pour l'interviewer. Il y a quand même des tas d'auteurs qui méritent ça bien plus que lui. Alors bon, déjà qu'on en ait fait une marque, je trouve ça insupportable. Ensuite, sur la théorie, je trouvais moi que c'était quelqu'un qui était intéressant sur la théorie. C'est quelqu'un qui a beaucoup participé à la vie intellectuelle new-yorkais, quelqu'un qui a permis de redécouvrir des auteurs anciens complètement oubliés comme Paula Fox et de Cécile Paula Fox, il y a quelques romans qui sont... Donc de ce côté-là, je trouve ça très très bien. Mais ensuite, par exemple, cette histoire, quand il dit maintenant on n'a plus besoin d'écrire une maison, tout le monde l'a en tête. Mais enfin, c'est d'une bêtise sans nom.
Il a pas, c'est moi qui ai traduit.
Ah non, ces propos ont été repris absolument par tout le monde. Moi, je ne les ai pas entendus directement de sa bouche. Ils ont été repris par tout le monde. Mais c'est une bêtise sans nom. Alors, ensuite, au niveau... Alors, dans la pause, c'est effectivement, regardez, je vous la joue populaire, mais en même temps, je vais vous la jouer un petit peu chic, c'est-à-dire, ça donne que Passe-moi le sel, il faut 3 pages, quoi. Quand on lit Dickens, quand on lit Balzac, Passe-moi le sel, c'est pas le sel, ça dure pas 3 pages. Je trouve qu'il y a des lourdeurs terribles. Et alors après, moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce roman, effectivement, c'est comment il adapte. C'est le sujet qu'il prend. C'est effectivement le personnage s'appelle Purity. Déjà, il faut oser quand même, oui, sachant qu'en face il y a un personnage qui s'appelle Wolf.
Pour s'amuser quand même. Mais ça fait partie
Mais jusque là, passons.
Cette veine.
Mais, cette obsession de la transparence des sociétés, qui est une société, cette obsession de la transparence n'est pas du tout quelque chose d'actuel. On trouve ça dans les sociétés depuis très très longtemps. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de l'appliquer au net, de voir si on peut pas faire autre chose, etc., etc. Très bien. Mais de cette question même, moi je trouve qu'il n'en fait quand même pas grand chose. Alors, je serais content d'écouter sur le fond, d'écouter aux arguments.
Philippe Chevillier.
Alors, d'abord, pour répondre à la première question, moi, c'est quelque chose que j'ai cité Franzen sur ce qu'il dit de ses livres et sur le fait qu'on n'a plus besoin d'écrire des maisons, etc. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, pas seulement chez Franzen, chez des romans américains ou anglo-saxons ou des romans modernes. C'est vrai qu'on a quand même quelques pages de description qu'on peut ôter parce qu'il y a des lieux qu'on n'a pas besoin de décrire. Il y a même... Ce qui est, quand on pense à toute la partie sur l'Allemagne de l'Est, où il
parle. Mais pourquoi on n'aurait pas besoin de décrire? Je veux dire, une description, ça appartient à un roman. Donc, dans le roman, soit ça s'impose de soi, soit ça ne s'impose pas. Mais de là à les théoriser en disant maintenant on n'a plus besoin d'eux, c'est aberrant.
Mais moi, c'est un constat que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de descriptions qui étaient utiles parce que les gens ne connaissaient pas du tout un style, un lieu, et qui étaient un peu des descriptions, des longues descriptions obligées. La preuve en est que lorsqu'il parle de l'Allemagne de l'Est et de la jeunesse du hacker, donc Andreas, qui est dans une famille avec protégée par la Stasi, etc., il a pratiquement pas besoin de nous donner tellement de références historiques parce que ces références, on les a. Et en revanche, on comprend très bien. On est plongé dans cette Allemagne de l'Est et on comprend très bien ce qui s'y passe et on retrouve très facilement les événements historiques sans qu'il ait besoin de s'attarder dessus. Et la deuxième chose, c'est que je pense que c'est le cas de beaucoup de romans où j'ai eu cette impression, où je me suis dit, mais c'est vrai que c'est d'une densité extrême, densité au moins dans les événements, dans les situations et dans l'introspection, et que parce que il y a une partie qui s'évacue d'elle-même dans la description. Quand je dis effectivement une maison américaine, on la voit, on voit un petit jardin, c'est un exemple un peu idiot, mais un exemple type. Il peut en avoir plusieurs comme ça. Bon, ça, c'est, on ne sera pas d'accord. Et sur la deuxième partie, moi, je trouve que, oui, c'est la transparence, tous ces thèmes-là, ils ont existé. On est simplement dans un monde qui est en évolution extrêmement rapide. On a Internet, c'est vrai que les héros modernes, ou anti-héros que peuvent être Snowden ou Assange. Et c'est des personnages intéressants, donc il en fait une espèce de calque dont il imagine une vie. Il en fait un double, disons, dont il imagine une vie, une enfance, etc., des traumatismes, des passions, des pulsions. C'est un personnage assez intéressant. Moi, je trouve que tous les personnages sont intéressants. Il y en a qui m'agacent un peu, mais ils sont intéressants. Et leur interaction et la façon dont il les amène à interagir, c'est vrai que ça a un côté... Alors, je ne dirais pas Page Turner, hein, c'est interdit.
C'est interdit maintenant.
Mais c'est vrai que c'est un côté roman un peu épique, saga, où tout rentre de façon puzzle. Bon, je reconnais que c'est peut-être un peu facile, mais je trouve que c'est une belle fable, un beau conte. En tout cas, un conte, plus qu'une...
Alors, je veux bien qu'il y ait une série d'exercices dont on n'ait plus besoin. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'à ce moment, on tombe sur du stéréotype, et ça veut dire qu'on recycle du stéréotype, c'est-à-dire sur une sorte d'évidence. Or, pour moi, le roman, il est tout à l'opposé. Je n'arriverai peut-être pas à dire ce que je veux dire, qui pourtant est important. Hein. Le but du roman, c'est d'aller derrière l'apparence, derrière ces stéréotypes, trouver la complexité. Effectivement, ce qui se passe en Allemagne de l'Est, quand le mur tombe, quand le régime s'effondre, quand les archives de la Stasi sont ouvertes, etc., etc., c'est quelque chose d'immensément complexe, parce qu'il y a quand même toute une partie de la population qui collaborait à ça, qui ensuite s'est trouvée dans une situation particulière, et puis effectivement, tout le monde a vu qu'il avait son dossier quelque part. Mais ça, humainement et à tout niveau, c'est d'une complexité énorme. Et je trouve que ça, on ne peut pas le stéréotyper. De même qu'on ne peut pas stéréotyper des gens qui sont en Amérique du Sud et qui font de la révélation de secrets, etc., etc. Ce sont des choses extrêmement complexes. Et il y a une autre question derrière qui est extrêmement intéressante, parce que il traite effectivement de ça, de l'information, de la vérité, de la révélation, etc. Mais vous avez remarqué que dans ce livre, comme dans les corrections, il y a un personnage qui est absolument extrêmement important, c'est le personnage du père. Alors, dans les corrections, le père était une sorte d'étouffoir. C'était quelqu'un qui empêchait l'évolution, qui empêchait les choses. Il mourrait fort heureusement avant la fin du roman, ce qui fait que certains personnages pouvaient vivre un peu. Bon. Là, on est dans une thématique, c'est quelque chose que les Américains aiment beaucoup dans le cinéma et dans la littérature, l'absence de père. Le père coupable, le père dissimulé. Bon, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire, parce que les motivations de tous les personnages tiennent au père. Le vrai père, le faux père, bon, c'est le cas de Vol, c'est le cas de Purity. Ça veut dire qu'au fond, toute cette thématique qui peut être très intéressante, du web, de la révélation des secrets, etc., il le ramène à des choses très particulières, c'est-à-dire que ces grands thèmes, il les dissout dans des questions qui sont très, très personnelles et très intimes et très privées.
Mais pourquoi pas ?
Oui, mais je veux dire, on dit, la grande question disparaît dans une question personnelle. C'est-à-dire qu'au fond, tous ces personnages ont comme motivation derrière une absence de père. Ils sont dans une sorte de vengeance de ça, de quête de ça, de recherche de ça, avec des retournements effectivement qui sont très romanesques, qui sont très bien. Mais moi, je trouve ça très très étrange, et pratiquement, je trouve que c'est antinomique avec son sujet. Le sujet étant de parler du personnel au général, là, il dissout le général dans le personnel.
Bah c'est un va-et-vient, d'abord parce que les modèles dont on parlait, les Snowden et Assange, sont des gens assez compliqués eux-mêmes. Donc pourquoi pas y trouver des racines qui sont un peu psy, un peu tout ce qu'on veut. Et moi, où je suis pas d'accord, c'est que je trouve... Alors peut-être que on peut trouver que c'est fabriqué, mais je trouve que chaque personnage a toujours, par rapport au héros typique des romans américains, un décalage. C'est-à-dire que l'héroïne, déjà, n'est pas extrêmement sympathique, elle n'est pas tout à fait séduisante et elle l'est en même temps, et lorsqu'on a des moments clés du livre ou des moments de séduction où on pense qu'elle va tomber dans les bras de... Elle le fait pas, alors on peut trouver ça fabriqué, mais je trouve que ces personnages en tout cas sont intéressants et nous montrent un petit peu justement une espèce de monde un peu éclaté alors dans la jeunesse qui se cherche, qui essaie de trouver sa voie et que justement le internet, la grande révélation, le grand déballage peut apparaître comme une forme de transparence absolument géniale et on les voit qui sont tout d'un coup peut-être pas aussi contents que ça après. Moi ça m'a éveillé beaucoup de réflexions à travers travers une histoire qui est très, alors oui, qui est complètement une histoire d'identité, une histoire, il y met de lui-même et il nous fait du psy, tout ce qu'on veut, mais je trouve que c'est pas aussi convenu que vous semblez le dire, Daniel.
Bon, divergence hein, d'opinion. Un dernier mot, Daniel Martin, sur Purity.
Je trouve effectivement ces questions un lanceur d'alerte, effectivement, s'il y a des problèmes, si des problèmes, etc., etc., le roman doit creuser ça. C'est ce qu'un roman doit apporter. Un roman, ça apporte du plaisir de lecture, tout ce qu'on veut de l'émotion, mais ça apporte aussi de l'information, ça apporte aussi des éclairages. Alors, je trouve que là, on les a en réfléchissant, en se disant « Ah oui, tiens, il y a peut-être ça, etc. etc. » Mais c'est pas immédiat, c'est pas dans la patte. Relisez les grands romans 19e, ces grands romans 19e apportent des choses, ils sont portés par une idée. Là, je trouve que l'idée, on la saisit mal. Alors maintenant, je dois quand même faire une réserve. Je suis pas en train de dire que ce livre est une nullité totale. Je trouve que ce livre est simplement pas du tout à la hauteur de l'éloge qu'on en fait. Et que Franz Zehn n'est certainement pas le grand romancier qu'on en fait. Parce qu'à l'Olivier, j'ai été totalement bluffé par un autre auteur dont on parle beaucoup moins, qui s'appelle Jamaica Kincaid. L'Olivier vient de ressortir deux livres de cette femme. Alors là, c'est totalement bluffant.
Bon, ben, on va en parler bientôt dans la suite, alors.
Ah, ben, j'espère, oui, bon. Parce que là, c'est magnifique.
Bon, mais ça ne nous empêche pas de trouver qu'il y a des auteurs même supérieurs. Et ça, c'est simplement, moi, j'ai plus la réaction par rapport à un roman qui est, allez, je leur dis une dernière fois, c'est pas mieux, un doorstopper. Allez,
oh, c'est un horrible.
Où j'attendais justement le côté un peu best-seller, un peu filandreux, etc. Et moi, j'y ai trouvé à la fois beaucoup de plaisir.
Honnêtement,
et
vous avez trouvé des longueurs quand même.
Même pas.
Oh. Bon, écoutez, on vous réconciliera pas sur Purity de Jonathan Franzen, traduit par Olivier de Paris, publié aux éditions de l'Olivier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure des scènes de Pierre Glendinning chez POL. Avant cela, on va retrouver l'invité de La Dispute, chorégraphe et directeur du musée de la danse Boris Charmatz. Nous évoquerons aussi La Marque et le Vide de Paul Murray et L'Amour a le goût des fraises de Rosamund Aden. Quel sera le goût de la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute ce soir? Réponse avec Émilie Chaudet. Bonsoir chère Émilie.
Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous. Pourquoi lit-on au juste? Alors c'est une question qui peut vous sembler plutôt banale, je vous l'accorde, mais qui porte en elle la nécessité de se réapproprier la littérature et l'acte de la lecture. Je lis parce que, Yo leggo perché, c'est le nom d'un hashtag sur les réseaux sociaux, ce mot-clé qui permet de générer une conversation, un hashtag italien donc qui a été au centre d'une campagne pour promouvoir la littérature et la lecture en Italie ces derniers mois, comme le rapporte le Corriere della Sera. Et cette année, l'objectif affiché de cette campagne, selon les mots de son coordinateur, Antonio Calabro, c'était la réappropriation des lieux de lecture, des bibliothèques aux librairies, pour replacer la lecture, je cite, dans le quotidien des enfants, des adolescents et des travailleurs. Alors qu'en est-il de cette réappropriation en France, surtout concernant les enfants et les adolescents, quand on se penche sur la mutation de l'école des loisirs? Laurent Nunez, dans sa chronique « À dire vrai » dans le magazine Marianne, y déplore la fin d'une époque. L'écrivain Geneviève Brisac, écrit-il, qui dirigeait depuis 27 ans la formidable maison d'édition Jeunesse, vient de se voir remerciée assez peu poliment. Et Télérama mène l'enquête sur cette école des loisirs, nouvelle formule sans Geneviève Brisac. Elle est signée de Michel Abescat. On y apprend que 5 projets précédemment acceptés par l'auteur et éditrice ont été déprogrammés et Arthur Hubschmidt, directeur littéraire, bien que peu porté sur le roman selon le journaliste, vient de refuser une vingtaine de projets venant d'auteurs bien connus pourtant de l'école des loisirs. À ce titre, l'auteur Alice de Poncheville témoigne dans cet article de la manière dont son projet a été expédié en 11 minutes par ces mots de l'éditeur. Je n'aime pas le fantastique, ça m'ennuie, je cherche des personnages réels, simples, qui accomplissent des choses. Une appréciation qui rejoint celle de son directeur Louis Delas, c'est l'écrivain Olivier Adam qui les rapporte, je le cite. Il m'a expliqué que les romans publiés par Geneviève Brisac ne correspondaient plus au goût des jeunes, qu'ils étaient trop souvent sophistiqués, trop sombres. Et puis il m'a proposé de continuer à lui donner des textes. Sans doute n'a-t-il pas lu mes précédents romans pour ados qui parlent du deuil et de la mort. Alors on aura noté ce rejet du fantastique et cette appétence très à la mode pour le réel. C'est peut-être peut-être pour cette raison que certaines maisons d'édition raffolent de récits de reportages au long cours qui n'ont plus leur place dans les journaux. Le journaliste de La Croix, Jean-Claude Raspienja, s'interroge les nouveaux horizons de la fiction. Car si le phénomène est loin d'être nouveau et que de plus en plus de revues accueillent ces récits de reportages, il y a eu ces dernières années des maisons d'édition qui se sont créées avec l'objectif premier de se spécialiser dans ce genre de publication, à l'image des toutes jeunes éditions Marchiali, dont le premier ouvrage Tokyo Vice de Jake Adelstein est paru il y a 3 mois et qui se donne pour mission de ne publier que ce genre de récit, mais sous forme de livre et non de revue. Cette nouvelle entreprise qui s'est montée à l'aide d'un financement participatif par ailleurs montre qu'il est possible pour de très jeunes éditeurs sans grande expérience du milieu au préalable de pousser les portes du domaine de l'édition avec un certain succès. Un succès que Laurent Beccaria, le patron des éditions des Arènes et cofondateur de la revue 21, explique de la manière suivante. L'engouement pour les histoires vraies avec de vrais personnages répond à la crise de la fiction. Dans les romans, selon lui, raconter une histoire passe désormais derrière le style. Ou plutôt, pour qu'un roman suscite l'intérêt, il faut que l'histoire dépasse peut-être le cadre même de son histoire et de l'objet livre. Chloé Voitier signe dans le Figaro un article sur ses ouvrages sous X, souvent signés de personnalités politiques, c'est-à-dire des livres écrits dans le secret de leur auteur jusqu'au dernier moment avant la parution, mais dont les éditeurs vendent déjà le succès colossal à venir aux libraires. Une question de protection de leurs auteurs plus qu'une recette marketing, se défendent certains éditeurs. D'autant que ce procédé énerve un peu le syndicat de la librairie française, car se voir obligé d'accepter la vente d'un ouvrage dont on ne connaît pas l'auteur, fût-il une célébrité du monde politique, ça comporte toujours une bonne part de risque. Surtout que parfois, selon ce même syndicat, je cite, l'ouvrage fait pchit. Mais quoi qu'on en dise, le secret d'un succès durable pour l'auteur et son éditeur réside pas mal dans ce secret et ce mystère de l'identité, comme celui de l'auteure italienne Elena Ferrante, qui le cultive depuis plus de 20 ans. Elle est, selon le titre de l'article de Jacques de Saint-Victor dans le Figaro littéraire, l'auteur qui fait fantasmer l'Italie. Le journaliste explique que, mis à part ses modestes éditeurs romains de la maison E.O., personne ne connaît son vrai nom ni son visage. L'auteur de L'Amie prodigieuse ou du Nouveau Nom, paru dernièrement, a été récemment au centre d'une tribune de l'écrivain et journaliste Roberto Saviano dans La Repubblica, qui voulait la proposer au Strega, le prix Goncourt italien, pour, disait-il, faire en sorte que des petites maisons d'édition accèdent aussi au prestige de ces prix littéraires, ce qui a créé la polémique dans le milieu. Comment peut-on penser à attribuer un prix à une auteure qui, de toute façon, pour conserver son anonymat, ne viendra pas le chercher? En tout cas, pour ces éditeurs, c'est plutôt une bonne chose que de se voir associer à la possibilité d'un prix et au charme d'un secret pareil. Et pour les lecteurs, ce mystère qui résonne au-delà des pages du roman peut les amener à y revenir. Perché io leggo, pourquoi je lis, pour percer le mystère de l'auteur.
Merci, Émilie Chaudet. Je vais peut-être vous poser la question, messieurs. Méfiez-vous, mais peut-être d'abord un commentaire sur l'école et loisirs. C'est quand même assez violent, ce qui se passe là, Daniel Martin.
Alors, moi, c'est un dossier que je ne connais pas suffisamment pour en parler. Je reste simplement sur un principe. Quelque chose qui m'agace un peu dans ce que j'entends, c'est que des romans seraient trop difficiles ou trop violents pour des adolescents. Mmh. Et ça nous ramène à cette question qui est à l'arrière, c'est-à-dire le personnage réel, comme si la réalité n'était pas quelque chose de violent. Enfin, je ne sais pas, un adolescent qui est confronté à la télévision, aux actualités, voit tous les jours des choses épouvantables. Mmh. Alors, le roman, si c'est pour inventer... Enfin, je ne sais pas... au 19e siècle, il y a certaines personnes, certaines femmes en particulier, qui ont écrit des romans dits pour adolescents, dont on sait que, enfin, Les Malheurs de Sophie et compagnie, au fond, c'est terrifiant, ces livres-là.
Oui, de Grimm et Apéro, mais si on s'en réfère à la jeunesse actuelle, qui voit Hunger Games, Twilight ou d'autres choses comme ça, a priori, le fantastique et la violence, c'est quand même présent. C'est violent, Harry Potter aussi, non?
Oui, et puis c'est fantastique pour le coup.
C'est fantastique, donc a priori.
Quand j'entends ça, surtout de la part de personnes qui sont en charge d'édition, on a l'impression que ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un roman. C'est quand même terrifiant. Un roman, c'est une qualité très particulière. Je trouve que les lecteurs le savent, quel que soit le milieu d'origine du lecteur. Un lecteur le sait, ce que c'est qu'un roman. Ça a une temporalité, ça a une texture très très particulière. Enfin, quand on lit un roman, on ne se pose pas ces questions. De toute façon, le roman, comme toute forme d'art, on peut dire que ça ramène au réel. Enfin, je ne sais pas, on peut développer des tas de choses intelligentes, intéressantes par rapport à ça. Mais cette différence est exaspérante. Quoi.
Hallucinant. Philippe Chevillier.
Oui, et puis je crois que dans les méthodes de marketing, on cherche toujours à trouver la façon de le roman, on trouve le livre idéal ou le roman idéal, mais ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un bon.
Actuellement, dans certaines maisons, quand on parle avec le personnel, il y a quand même des directeurs, des directrices de maisons qui demandent à leurs équipes de leur fabriquer des best-sellers. C'est extraordinaire, extraordinaire comme.
Oui, on s'inquiète sur les directeurs et directrices, hein, pour le coup, de ces maisons.
Non, mais là, il y a un vrai sujet pour Franzen de s'attaquer à ça pour le prochain.
Dans 7 ou 8 ans, alors, peut-être pour le prochain. Et puis, Marchalier, ouais, effectivement, cette maison, on en a parlé par deux fois, parce qu'Emily Barnett nous a parlé de Tokyo Vice, c'est du deuxième titre, d'ailleurs, publié depuis aussi. Alors, messieurs, pourquoi lisez-vous, Philippe Chevillier? Pourquoi lisez-vous?
Non, je ne sais pas.
Je ne sais Martin, pas. Mais je lis. Il lit parce qu'il est obligé professionnellement.
Non, je lis depuis toujours, mais voilà, je ne me pose même pas la question. C'est assez naturel. Je lis comme on boit ou comme on respire.
Daniel Martin, oui,
je trouve que c'est, je sais pas, c'est une façon d'être au monde. Enfin, voilà. Je veux dire, il y a des gens qui font du sport, et puis d'autres qui lisent. Je trouve que.
On peut faire les deux parfois aussi.
On peut faire les deux. Je trouve que. Souvent, on fait des catégories comme ça. Bon, bah, c'est tout à fait différent. Enfin, c'est une façon d'être, je trouve.
Façon d'être qui vous a fait remarquer l'un et l'autre deux livres dont vous voulez nous parler ce soir, en plus de scène qui sera l'objet d'une dispute dans quelques minutes. Avant cela, La marque et le vide, Philippe Chevillier, c'est Paul Meuret chez Belfond.
Absolument, et c'est un roman financier, je me suis dit, je vais faire mon journaliste des Échos, une fois de plus. Non, un roman financier, alors Paul Meuret, c'est pas n'importe qui, c'est un Dublinois, un Irlandais, qui avait fait un super roman, c'était son deuxième, qui s'appelait Skippy dans les étoiles, en 2010, et qui vraiment mettait à bas tout le système d'éducation en Irlande, et c'était un roman assez incroyable, parce qu'il brassait à la fois le fantastique, il y avait à côté, justement, ça aurait pas plu à notre ami
l'école
des loisirs, et en même temps, c'était très politique, un roman d'adolescent, un roman d'initiation. Enfin, voilà, c'était un très beau livre. Alors, celui-là est beaucoup plus simple. C'est vraiment un livre, une comédie financière qui part d'un personnage qui s'appelle Claude, qui est un jeune banquier français qui s'est installé en Irlande en rupture de banc avec sa famille, son père, parce que son père lui a payé des études et il est devenu banquier. Donc, son père, qui est de gauche, ne peut pas le supporter. Il s'en va et il reconnaît que, bon, à part sa vie, il n'y a pas grand-chose dedans, à part son boulot. Et tout d'un coup, il rencontre un romancier qui, par hasard, s'appelle Paul, comme l'écrivain Paul Meuret, et qui lui dit « Vous êtes vraiment le everyman, je veux faire un roman sur vous. » Alors, il ne veut pas au début, puis finalement, il accepte d'être le héros d'un livre. Et puis, très vite, on va s'apercevoir que le romancier qui est flanqué d'un espèce de russe qui s'appelle Igor a pas des motivations très très claires. Est-ce qu'il a vraiment envie d'écrire ce roman? Pendant ce temps-là, la banque où travaille Claude, la banque of Torrado, je crois qu'elle s'appelle, est en train de devenir complètement cinglée avec un nouveau patron qui décide que la nouvelle voie pour soutenir la banque et pour la faire se développer, c'est le contre-intuitif, c'est-à-dire investir dans tout ce qui est mauvais. Et notre héros, Claude, qui n'a vraiment rien dans sa vie, trouve enfin l'amour, mais il rencontre l'amour avec une jeune restauratrice grecque qui est une indignée. Et donc, tout ça va évidemment faire des étincelles entre ce romancier qui n'a pas vraiment envie d'écrire son roman, le banquier qui veut que le roman soit écrit quand même, qui est en train de se poser des questions sur la banque qui est en train de faire faillite et puis qui va quand même rebondir. Il y a même dans l'histoire un mathématicien russe qui invente un système mathématique, justement, pour investir vraiment dans tout ce qui est pourri et en disant, c'est sûr qu'on est les seuls à le faire, après ça va rebondir, etc. Donc, il se moque de la finance. Il se moque aussi un petit peu de l'écrivain en quête de succès, puisque l'écrivain en question, le Paul en question, a écrit un seul roman sur une histoire de clown qui a eu aucun succès. Et en plus, à la fin, évidemment, il y a une fin qui est très très insolente, que je ne vous révélerai pas. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup amusé, qui vraiment est un livre critique sur la finance, un des meilleurs que j'ai lu récemment sur la question.
La marque et le vide de Paul Meuret chez Belfond, traduit par
Chloé Royer.
Très bien. L'amour a le goût des fraises, nous apprend Rosamund Aden, c'est chez Sabine Vespizer.
Alors, l'amour a le goût des fraises, c'est une partie d'une chanson de Myriam Makeba. Je dis ça quand même. Alors, la traductrice, c'est Diane Meur. C'est elle qui a attiré.
C'est Diane Meur qui a traduit?
Oui, Diane Meur. C'est pour ça que j'ai ouvert ce livre. Alors, c'est un livre romanesque, que je dirais grand public. Et il est un peu dans cette ligne de d'Elena Ferrante. Les personnages principaux sont des femmes. On est dans un autre pays, c'est l'Afrique du Sud. Il y a trois femmes principalement. Une jeune femme qui est rescapée des massacres au Rwanda. Enfin, pas exactement parce qu'elle est partie avant, mais disons rescapée des massacres au Rwanda. Une autre qui est une femme blanche, mais milieu bourgeois, artiste, avec une mère qui disparaît, un énorme chagrin qu'elle trimballe pendant une grande partie, et une troisième femme, sont tous des personnages assez jeunes, une troisième femme qui est étudiante assez marginale. Et ces trois personnes sont liées par un peintre qui donne des cours de dessin, et la première page du livre, on apprend la mort de ce peintre. Et au fond, c'est la disparition de cet homme, de cet atelier de dessin, qui cristallise tout ce qui va se passer dans ce roman. C'est-à-dire cette absence va faire que tous ces personnages, c'est comme si les personnages perdaient un lieu commun. Donc ils sont comme ça éparpillés et vont tous se poser cette question de l'existence dans cette Afrique du Sud des années début de 2000, qui est en ébullition, en évolution. Très honnêtement, je trouve que la forme romanesque, c'est un livre qui a l'ambition qu'il a, qui tient son pari, qui n'en veut pas plus. Et sur ces personnages, ça fonctionne à mon avis très très bien. Voilà pourquoi je tenais à vous présenter ce livre. Bon. Et Rosamund Adan est une personne qui est connue à la fois pour son implication dans politique en Afrique du Sud, et c'est également quelqu'un qui a énormément écrit pour l'adolescence, qui est une façon de faire un salut à l'école des loisirs et à Geneviève Brisac.
Très bien, et donc L'amour à le goût des fraises, Rosamund Adan, chez Sabine Vespizer, traduction Diane Meur. Dans quelques minutes, nous allons parler du livre Scène de Pierre Glendinning chez POL. Avant cela, nous retrouvons l'invité de la dispute cette semaine, c'est le danseur, chorégraphe, directeur du musée de la danse, Boris Charmatz. Vous pouvez bien sûr retrouver toute son actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Boris Charmatz, pour ce dernier rendez-vous ensemble cette semaine, on revient à des propos du début de la semaine. Lundi, vous parliez de la bibliothèque de vos parents. Mm-hmm. Le rapport au livre, il commence là. Et vous avez évoqué un autre jour Reiser et Sade qui n'étaient pas loin. C'est l'ordre alphabétique. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'étaient rangés les livres. Vous êtes un hasard. Mais le rapport au livre, il est de quelle nature pour vous ? Il y a plusieurs livres sur votre table de chevet ? Il y a toujours des livres dans la valise ou...
Ça dépend... Ça dépend. Avant, je lisais énormément. Là, au quotidien, des fois, j'ai pas assez de temps. En janvier, février, je me suis mis à lire L'Infinie Comédie de David Foster Wallace.
Ouais, il faut du temps.
Et j'avais essayé en anglais avant, et je crois que j'ai lu trois fois les 50 premières pages. Et à la fin des trois fois,
950.
En anglais, voilà, un peu plus, je crois. Et je me suis dit, bon, je vais pas continuer parce que je. Trop dur. Enfin, je commençais à bien comprendre les 50 premières pages, mais je me suis dit, bon, là. Et bien, en janvier, février, j'ai eu une sorte de fenêtre de temps, j'ai pu tout lire, enfin, en français, la traduction. Qui est un peu étrange, parce que c'est plutôt, on dirait plutôt, ce serait plutôt l'éternelle jouissance que l'infinie comédie, enfin je sais pas. J'adore ça, quoi. C'est aussi génial le livre, de se dire on peut s'enfermer, on peut être sur une plage, dans un théâtre, dans un train, ici ou là, et avec ce livre-là, on voyage, on peut se plonger là-dedans. On se plonge évidemment dans l'univers mental, physique de l'écrivain, mais on se plonge aussi dans son propre... C'est comme si la recherche de l'écrivain devient sa propre recherche, parce que les mots se mettent à tourner dans notre propre tête. Et dans le cas de David Foster Wallace, il y a une sorte de logorée, où c'est très dur à résumer, parce que c'est comme un data livre, en fait. Il y a plusieurs sujets qui s'entremêlent, il y a l'addiction et la drogue, mais... Dans le fond, est-ce que moi, la drogue et l'addiction, ça m'intéresse ? Je ne sais pas si je serais prêt à passer 2 mois sur un bouquin sur la drogue et l'addiction. Par contre, un livre de David Foster Wallace, et d'ailleurs, il avait écrit une sorte de livre sur les nombres infinis, qui est, je dirais, de la vulgarisation scientifique, mais fait par lui, ça devenait autre chose. Donc voilà, parfois, j'arrive à me plonger et avoir un temps, et j'aime quand même bien l'idée d'être sur un livre et pas trop grappiller. Après, à l'inverse de ce livre-là, récemment, je lisais plein de textes de Marceline Delbecq, qui est plutôt, je dirais, artiste visuel, mais qui écrit.
Ah oui. Fort bien.
Voilà. Et pour le coup, c'est des textes assez courts. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu plus adapté à mon mode de vie, là, entre les tournées. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'aime bien, bon, j'aime vraiment la grande littérature, mais j'aime bien aussi il y a des textes poèmes de Vito Acconci qui sont de l'art ou qui sont même de l'art conceptuel et puis qui sont aussi de la poésie ou de la littérature ou du texte. J'aime bien, mais j'ai quand même, je dirais, pas assez de temps pour lire globalement. Je lis trop les choses sur mon ordi et sur mon iPhone, donc les textes de 2, 3, 5, 8 pages passent bien et les vraies sommes, là, c'est plus compliqué.
Et les écrits sur la danse, alors, est-ce qu'ils vous intéressent ou ça dépend vraiment ?
Non, ça m'intéresse vraiment et j'aime beaucoup les écrits de danseurs même. Parce que c'est sous-estimé, alors que souvent, je sais pas, c'est à la fois historique, hein. Il y a des textes de Laban, des textes de Nijinsky aussi, de Valeska Guerre, des textes de Hijikata, fondateur du Buto. Moi, j'aime beaucoup la littérature des danseurs eux-mêmes. J'aime bien la littérature sur la danse, c'est passionnant, les universitaires, les chercheurs qui écrivent sur la danse. Récemment, je lisais un texte de Bojana Svejić, c'est une philosophe, critique de danse, c'est vraiment passionnant. Mais j'aime bien aussi les textes de danseurs, c'est peut-être des fois plus fragile, c'est peut-être plus... pas forcément chaotique d'ailleurs, mais le fait de prendre la plume, de passer du temps à par le texte, à expliciter le monde chorégraphique, j'aime énormément ça. En fait.
Et vous avez des carnets de notes, Richard Matz, pour un livre à venir ?
Alors, je note très, 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 très peu. Même les chorégraphies que je fais, je me dis, c'est surtout dans ma tête, quoi. Donc, je note très peu. C'est-à-dire, si les danseurs se souviennent pas de ce qu'on a fait, c'est un vrai souci. Parce que moi, ou alors, il faut que je m'en souvienne moi, mais j'ai très peu. Par exemple, j'admire Anne-Thérèse Kersmacher, elle prend des notes, elle fait des dessins, mais dès qu'elle gribouille quelque chose sur une table, on a tout de suite envie de l'encadrer, c'est extraordinaire. Alors moi, il reste rien de ça. Il y a vraiment pas grand-chose. C'est plus dans ma tête. Et après, parfois, je sais pas, j'ai l'énergie d'un vrai livre. Comme avec Jérôme Bell, on a commencé à faire des échanges de mails et très vite, c'est devenu un projet de livre qui s'appelle Email, hein, qui est un vrai, une correspondance comme ça, où Je suis une école, le livre précédent, où j'avais fait un projet qui s'appelle Bocal, qui était une école de 13 mois, qui était un projet brûlant, génial, horrible, terrible à bien des égards. Et après, il fallait que j'écrive quelque part. C'était comme un... Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à écrire. Et puis là, en ce moment, je dirais non. Mais j'espère que ça reviendra, parce que j'adore écrire. Ça me plaît énormément, mais c'est par bouffée un peu.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le vendredi soir à la littérature avec Scène, au pluriel. Un diptyque prétendument traduit de l'anglais par Anne Marbeuf. Je dis prétendument parce que lorsque l'ouvrage est traduit, vous le savez, se trouve entre parenthèses le nom du pays dont est originaire l'auteur. On marque traduit de l'anglais, enfin, Angleterre, Canada, etc. Alors dans le cas présent, il est indiqué Erwan. Vous avez bien compris qu'à l'envers, ça faisait « nowhere », nulle part. Premier mystère, donc. Et puis Pierre Glendinning, le nom de l'auteur, se trouve aussi être le nom du héros du roman de Melville, « Pierre ou les ambiguïtés », deuxième mystère. Pour accentuer le mystère, comme vous les aimez, Daniel Martin, Pierre Glendinning, c'est vous ? Vous pouvez nous le dire ou pas ce soir ?
Et non, ça n'est pas moi, malheureusement. Pierre Glendinning, je le tiens de la maison d'édition, donc je pense que ça n'est absolument pas un secret. Derrière ce pseudonyme se cache Brice Mathieu-Sang, qui est un très grand traducteur et également un romancier. Et je dois dire que de changer de nom est une très belle idée, parce que j'ai ouvert ce livre pour les raisons que je vous dirai tout à l'heure, et j'ai été très séduit par une sorte de liberté d'écriture, et c'est pas le souvenir que j'avais gardé des livres précédents de Brice Mathieu-Sang, donc je me suis dit que passer derrière un pseudonyme pouvait peut-être avoir des effets absolument bénéfiques comme ça. C'est une remarque qui vaut ce qu'elle vaut, je n'en ferai pas une théorie. Alors,
vous l'avez ouvert pourquoi ce livre?
Oui, je me suis, parce que vous savez, souvent les quatrièmes de couverture sont assez désespérants, et là le quatrième de couverture, il y a une citation qui m'a énormément plu. C'est d'un personnage qui s'appelle Mencken, qui était un journaliste fin 19e, début 20e aux États-Unis, qui visiblement avait beaucoup d'humour et qui par ailleurs était un excellent critique littéraire. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup de critiques littéraires, n'a pas laissé son nom dans l'histoire, mais qui n'a pas moins un rôle important. Et donc ce personnage a dit cette phrase que je trouve absolument belle. On dit généralement que deux personnes qui sont en couple n'en forment qu'une. Le problème est de savoir laquelle. Et alors, le livre de Pierre Glendinning, donc, est organisé en deux temps. C'est d'abord la parole de monsieur, ensuite la parole de madame. Alors, pourquoi en deuxième temps la parole de madame? Parce que monsieur note toutes ses pensées et toutes ses remarques sur leur couple sur un petit carnet qu'il perd malencontreusement et qu'elle retrouve. Elle peut le lire et ensuite elle fait ses commentaires. Alors, le couple est constitué d'un homme et d'une femme qui ont une quinzaine d'années. C'est un remariage pour lui. Lui a déjà une fille d'un certain âge. Ensuite, ce couple, avec des âges différents, ont aussi une autre fille. Je l'ai dit tout ça parce que tout le monde saura, quand il connaît plus ou moins la situation, que ça peut participer à l'animation des conversations le soir. Et donc, il note un certain nombre de choses. Et je trouve que sur cette idée du couple, qui a été quand même la grande affaire du roman pendant très longtemps, le couple n'est plus la préoccupation essentielle, il redonne au couple un intérêt, une vigueur comme ça dans ses observations. Je trouve ça assez étonnant. C'est-à-dire, c'est pas simplement dans le couple les petits agacements. Alors les petits agacements en font partie, c'est-à-dire les tics de langage, c'est celui qui s'approprie tout en disant ma maison, etc., alors que c'est notre maison, bien sûr. Mais c'est aussi lequel va justifier au fond la vie de l'autre sous ce prétexte de l'amour. Donc, il creuse beaucoup plus que ça. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, la première partie. Alors, effectivement, comme il y a deux parties, on peut prendre le parti du mari ou de la femme. Je veux dire que j'ai plutôt pris le parti du mari. Je trouve ça plus drôle. Mais je dirais ensuite.
On y reviendra, bien sûr.
La vie de madame.
On va faire le match retour. Mais d'abord, on va écouter Philippe Chevillé. Sur scène.
Écoutez, moi aussi, je me suis dit que le fait d'avoir non seulement un pseudo, mais une traduction, en plus, ça donnait un côté... le livre était comme exfiltré du paysage littéraire français, et que ça lui donnait une fraîcheur, mais qu'il a de toute façon. Moi, je me suis beaucoup amusé à le lire. Ça, c'est très drôle dès le début. Il y a même des moments qui sont vraiment hilarants, des petites scénettes complètement absurdes. Et alors j'ai pensé tout de suite, parce qu'on a ces deux monologues d'une certaine façon à Clôture de l'amour.
Ouais, oui.
Hein, de notre ami Rambert au théâtre. Sauf que bon, Clôture de l'amour, c'est pas très gay. Là, c'est plutôt on est quand même plutôt dans la comédie, même si elle est extrêmement noire et
acide en tout cas.
Acide. Et puis non, mais elle est féroce quand même.
Oui, féroce.
Dans le Carnet bleu, quand il parle de la furia de son épouse Anna, c'est quand même des moments de furie absolument terribles. Alors, c'est vrai que, et je comprends pourquoi, Daniel dit, je suis plutôt du côté du mari, parce que quand même, comme c'est écrit par un homme, c'est vrai que la deuxième partie sur la femme, elle
rétablit un peu les choses. À l'inverse de Pascal Rambert, qui fait gagner la femme,
oui.
Là, on va dire.
Ouais, là, bon, elle a quand même un petit peu du mal, elle rame un petit peu, même si après on tombe dans la condamnation, effectivement, de peut-être que le mari ment, raconte des salades. Bon, il y a tout ça, c'est très amusant. Il y a une partie qui est assez réussie aussi, où on a espèce de digression où on se promène. Alors ça peut être on se promène dans la jungle, c'est un peu mystérieux au départ. Il y a une évocation de Pétrarque qui est assez jolie. Il y a une évocation aussi d'une légende urbaine à Miami que j'ai trouvé pas mal. La fin est, ouais, voilà, je n'en parlerai pas, elle est amusante.
Vous êtes un peu déçu, cette fin.
Non, ouais, non, le principe de la fin, de dire on peut arrêter le livre là.
Voilà,
on peut lire la troisième partie.
Ça, c'est bien.
Je repensais au film de Duvivier dont il a été question à
discuter il
y a pas longtemps. C'est-à-dire, on peut trouver deux fins. Je trouve ça assez drôle aussi.
Ça, c'est drôle. Et puis, alors, il y a aussi, l'aspect, moi, qui m'a aussi beaucoup plu, c'est derrière l'humour, il y a une satire quand même de la société française bobo bourgeoise qui est assez réussie, que ça soit dans les stations de sport d'hiver ou dans toutes les vacances, parce qu'on passe beaucoup de vacances avec ce couple assez catastrophe, mais les gens surtout qui les entourent sont aussi catastrophiques, et je trouve que bon, moi je me suis bien amusé à lire ce livre et je l'ai trouvé intéressant et assez joli. Oui.
Et alors ce qui est très beau, je trouve ça très beau, dans ces agacements, dans ces cris, etc., soudainement, il y a des passages où ces deux personnages retombent amoureux l'un de l'autre. Et alors, c'est dit avec une élégance, avec une grâce qui est d'une beauté. Alors, tout ça rattrape, effectivement, explique à la fois pourquoi il reste aussi longtemps, pourquoi il ne se tue pas, bien que peut-être il y aura de ça aussi. Voilà, moi, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement plaisant. Et puis, effectivement, on peut pas lire ce livre sans faire des références à des choses vécues, je pense. Hein, là, je pense. Et alors, quand je dis que je suis plus du côté du mari, c'est vrai que la femme telle qu'elle est doit être quand même absolument magnifique et superbe, mais quand même très très insupportable, voire légèrement hystérique. Enfin, ça.
Point de vue de l'homme, hein.
Oui, ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je prends. Alors, je mets tout ça entre guillemets pour pas me faire agonir de.
Philippe Chevillier.
Oui, en partant de Pétrarque, je crois, et à un moment donné, il dit il pense qu'il aime ce qu'il désirait haïr, alors qu'elle, dans sa partie, dans son carnet rouge, à un moment donné, elle dit qu'elle commence à croire qu'elle n'aime pas celui qu'elle aimerait aimer. Donc c'est assez, effectivement assez élégant. J'ai bien aimé cette formule. Donc oui, moi je suis assez content de cette lecture.
Juste peut-être pour dire à nos auditrices et auditeurs. Les deux, évidemment, sont conviés à la lecture de ce livre. Moi, j'ai pas trouvé ce livre très... J'ai eu un peu de mal à y entrer dans ce livre-là. Je pense qu'il est assez déroutant dans ses premières pages. Enfin, on l'a pas dit, c'est quand même un volume assez imposant aussi. Je me rappelle plus du nombre de pages, mais c'est quand même... il faut véritablement plonger dedans. Et on met quand même un petit moment quand même à se trouver à l'intérieur. Vous avez pas eu ce sentiment, Daniel Martin?
Non, effectivement, je suis plus surpris par ce que disait Philippe, c'est-à-dire que dans ces scènes conjugales, ces intermèdes, qui sont certaines fois purement descriptifs, etc. Mais je trouve que au fond c'est quelque chose auquel on s'habitue assez vite et qui rythme ça. Et
puis à la limite, j'aime bien être déstabilisé ou un peu dérouté. C'est pas la question.
On peut tourner quelques pages plus vite. Je sais pas, mais bon voilà. Mais moi j'ai trouvé ce livre assez singulier dans ce qui est proposé.
C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est quand même on n'est pas dans un terrain très connu avec ce livre-là, même dans sa forme. Je veux dire, Philippe Chevillier.
Et au fond, on parlait de la fantaisie, qui a quand même de l'amour entre les personnages, mais au bout du compte, quand même à la fin, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il est assez radical dans la mesure où on n'a qu'une envie, on se dit, à la fin, il faut vraiment se séparer, quoi. Il faut que les couples se séparent, il faut divorcer, il faut surtout pas vivre ensemble. Et je trouve que c'est une morale qui change un petit peu des livres qu'on lit d'habitude.
Je crois que cette question, parce que bon, le couple, mariage, etc., ça a nourri là. Et effectivement, tout était pris dans un contexte social très très précis. Et là, de le prendre dans ce milieu qui est effectivement un milieu bobo. C'est pas des personnes qu'on pratique particulièrement des problèmes de fin de mois. De le mettre dans ce contexte, ça rajoute parce que au fond c'est un milieu qui se veut relativement anticonformiste, et puis là la question du vivre ensemble, vivre à deux, on peut aussi retomber sur des schémas anciens, assez facilement d'ailleurs.
Ouais, c'est un livre pour Nouvelle École des Loisirs, hein, ça parle de vrais gens, non? Ce sont des sujets très quotidiens,
rien
c'est très réel.
Rien de fantastique.
Ouais, et puis bon, je trouve que c'est quand même remarquablement traduit par Anna Marbeuf. Mais très, très réellement, je trouve qu'il y a une très belle langue aussi. Alors, comme vous m'apprenez que c'est de Brice Mathieu-Sang, j'avoue que j'arrive pas très bien
effectivement, à faire le lien avec les souvenirs de lecture que j'ai de Brice Mathieu-Sand, dont certaines que j'ai beaucoup appréciées. Mais je trouve qu'il y a une langue extrêmement fluide, belle, enfin, d'une simplicité, mais à la fois qui est très, qui nous entraîne beaucoup.
Et je crois avoir compris que le fameux livre de Melville,
Pierrot les ambiguïtés.
Oui, c'est ce livre qui a été adapté.
Très lointainement par Léos Carax, qui a donné Paula X.
Oui, c'est ça.
Avec Charonas Bartas et Katia Golubeva.
Oui. 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 Quand j'ai lu cette information, je me suis dit que c'était du Carax pur jus d'aller chercher ce livre. Enfin,
le film est très loin du livre de Melville.
Oui, quand même. Enfin, ce livre de Melville, personne ne connaît. Enfin, je ne sais pas, moi, vous connaissez.
Moi, je le connaissais par le film de Léos Carax,
oui,
à vrai dire.
C'est tout.
Bon. Et il est très loin, d'après ce que j'ai compris, de l'histoire aussi de scène.
Il s'est amusé, Brice Mathieu-Sand. Enfin, il s'est amusé à nous perdre un petit peu.
Melville revient de temps en temps, réapparaît de temps en temps.
Bon, on est toujours heureux de voir arriver Melville. Alors à la dispute prochainement, le nouvel auteur de l'Olivier dont vous nous parliez, enfin, nouvel auteur, rappelez-moi son nom.
Jamaica Kincaid.
Rien que le nom me plaît.
Il y a une réédition avec un livre qui s'appelle Autobiographie de ma mère. Vraiment, en librairie, je vous conseille, vous prenez Autobiographie de ma mère, vous lisez les quatre premières lignes. C'est fracassant.
Et si on ne veut pas l'acheter après ça, vraiment, c'est à désespérer.
C'est fracassant. Et l'autre, c'est sur une histoire de couple aussi qui est extrêmement violente. C'est une femme qui écrit assez proche d'elle, assez proche de son histoire, comme ça. Je trouve son écriture très radicale, certainement très grande qualité de la traduction, parce qu'on on l'a comme ça immédiatement. Non, c'est vraiment un très très bel auteur.
Ce sera au programme, et puis on mettra peut-être Pierre et vous les ambiguïtés si un éditeur republie ce livre de Melville. Pour l'heure, nous parlions de scène, au pluriel, de Pierre Glendinning, donc ce diptyque prétendument traduit de l'anglais par Anna Marbeuf chez POL.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et pour conclure cette émission, le jeu de la dispute que j'ai la joie de faire avec Émilie Chaudet à nouveau. On commence, Émilie, par un retour d'abord sur le jeu d'hier au soir.
Oui, nous vous faisions gagner des invitations pour l'exposition Laboratoire de l'Art jusqu'au 4 septembre au Musée des Arts et Métiers à Paris. La question que l'on vous posait hier soir, c'était quel artiste s'est emparé du pendule de Foucault pour cette exposition ? Et il fallait répondre Sophie Crière avec le pendule de Foucault en geste.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour une autre exposition. Gérard Petros-Fierré, c'est au Bal, une très bonne maison à Paris, exposition visible jusqu'au 28 août. Quelle est la question ?
Pour quels animaux Gérard Petros-Fierré s'est-il pris de passion ?
Voilà, votre réponse, c'est que vos coordonnées sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Daniel Martin, Philippe Chevillier, Émilie Chaudet, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet, franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez vous abonner au podcast de cette émission et un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore, Virginie Le Duo et Émilie Chaudet, qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée ce soir par Alain Joubert, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour une dispute consacrée au spectacle vivant, en compagnie d'Anna Segalevitch et Philippe Chevillier, qu'on retrouvera avec plaisir lundi soir, et Anna Segalevitch donc. À notre affiche, nous sommes repus, mais pas repentis. Déjeuner chez Wittgenstein, d'après Thomas Bernard, mise en scène de Séverine Chavrier, aux ateliers Berthier, Théâtre de l'Odéon, et puis Tristan et Isolde de Wagner, mise en scène de Pierre Audi, c'est au Théâtre des Champs-Élysées. Je passerai un coup de fil à la comédienne Elise Abance-Mouronen, comédienne trapéziste, pour un spectacle qui s'intitule Mad in Finland, qui sera présenté à la scène nationale de Châteauroux. On retrouvera bien sûr Émilie Chaudet pour une revue de presse culturelle. L'invité de la dispute la semaine prochaine sera le musicien et compositeur Bachar Mar Khalife. Il y aura un nouveau cadeau à gagner dernier. Tout ça, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15. Hors champ par Laura Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.